Médien.
Média. Podcast.
Dans un contexte géopolitique africain en constante recomposition, les diplomaties sénégalaises et marocaines tracent des trajectoires singulières mais convergentes, portées par une ambition commune de stabilité et d'intégration continentale. Dans cette dynamique, les démarches sénégalaises et marocaines, bien que distinctes dans leurs priorités, participent toutes deux à redessiner une diplomatie africaine plus affirmée, enracinée dans les réalités africaines, mais ouverte au monde. Et pour voyager dans cette sphère dynamique et en découvrir les contours, nous aurons aujourd'hui comme guide Mohamed Eshkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique. Bonjour, Monsieur Eshkoundi, et merci de nous servir de guide aujourd'hui.
Bonjour et merci de votre invitation.
Alors, comment la diplomatie sénégalaise, sous l'ère du président Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, redéfinit-elle les priorités africaines en matière d'intégration, de solidarité et d'indépendance politique?
Oui, c'est une très bonne question parce que tout d'abord, il convient de constater que la diplomatie sénégalaise sous Diomaye Faye connaît une réorientation importante, mais on va dire, il faut le rappeler, non radicale, dans la mesure où la réalité, c'est le pas au discours de la campagne. Ceci étant précisé, il y a des changements importants et perceptibles au niveau de trois points soulevés, c'est-à-dire par rapport aux priorités africaines, parce qu'on voit que la diplomatie sénégalaise donne de plus en plus importance d'abord à son voisinage immédiat et en plus à la communauté économique régionale d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'intégration régionale et partant à l'intégration continentale. Donc il y a une focalisation sur l'importance de renforcer les relations entre les pays d'abord de voisinage, ensuite les pays d'Afrique de l'Ouest et finalement les pays africains dans l'ensemble. Donc il y a une réorientation importante à partir du moment où la diplomatie sénégalaise compte faire de renforcement des relations avec les pays africains sa priorité absolue, tout en partant de certaines considérations, de certains principes, à l'instar de la souveraineté, l'instar de la souveraineté aussi sécuritaire et aussi le renforcement de la coopération continentale d'un point de vue et économique. Donc on peut dire qu'il y a un focus, il y a une focalisation de la diplomatie sénégalaise sur l'Afrique. Et en la matière, donc la preuve en était la visite, parce que la première visite que Diomaye Faye avait consacrée à l'Afrique, c'était à la Mauritanie, donc le voisinage immédiat. Et on voit ce qui se passe en ce moment entre la Mauritanie et le Sénégal. On est dans ce que nous appelons, dans nos écrits, l'émergence d'un nouveau paradigme d'intégration en Afrique, c'est celui de l'économie de mutualisation. À partir du moment où, lors de la visite effectuée par Diomaye Faye, il y a eu la signature de plusieurs accords, et nous avons vu aussi, et c'est un précédent en Afrique, c'est une évolution inédite, j'ai envie de dire, à partir du moment où deux pays africains qui découvrent des gisements importants de gaz décident, plutôt que de se faire la guerre, entraînant un cercle vicieux de conflictualité, ils ont décidé de mutualiser leurs efforts, leurs infrastructures pour exploiter communément cette ressource. Donc il y a une économie de mutualisation et c'est de nature à renforcer bien évidemment l'intégration d'abord entre la Mauritanie et le Sénégal et ensuite l'intégration continentale.
Et justement dans cette dynamique, en quoi d'ailleurs la posture panafricaniste du nouveau pouvoir sénégalais peut-elle renforcer ou fragiliser la cohésion entre les pays africains dans un contexte de fracture géopolitique régionale ?
Vous savez, parce que la diplomatie sénégalaise, tout à l'heure, je parlais de pragmatisme de la diplomatie sénégalaise. On est loin d'un discours un peu radical par rapport à la rupture, par rapport aux partenaires, ainsi de suite. On est dans un discours, on est dans une réalité beaucoup plus pragmatique, axée sur le désir du Sénégal de s'affirmer sur la scène continentale par le biais des médiations, par le biais de rapprochement avec les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays africains en général, et par le souci aussi de verser dans ce que j'appelle un panafricanisme de développement. Parce que le constat du Sénégal, c'est que, de la diplomatie sénégalaise, c'est que l'Afrique se trouve devant un dénombrable défi, et la majeure partie du défi, parce que dans le déplacement aussi bien de président Diomaye Faye que de Premier ministre Ousmane Sonko, il y a eu cette préoccupation qui revenait à chaque fois liée à la sécurité, à la lutte collective contre le terrorisme. Donc on voit le souci d'accorder beaucoup de place à la coopération sécuritaire qui entrave le développement et à la coopération, j'ai envie de dire, développementiste, la coopération économique. On est contre eux, l'ensemble des accords signés lors des déplacements aussi bien de premiers ministres que de présidents avec des pays tels que la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et ainsi de suite. Donc, en même temps, on voit aussi la volonté du Sénégal, comme je viens de le dire, d'éviter un peu cette fracture, pas idéologique, mais cette fracture basée peut-être sur des modèles de gouvernance qui sont divergents, la volonté de la diplomatie sénégalaise de rapprocher d'abord les pays de l'AES de la dynamique d'abord régionale de la CEDEAO, c'est-à-dire faire en sorte, parce que le Sénégal appelle à une réforme de la CEDEAO, donc une amélioration de la gouvernance de la CEDEAO, de telle sorte à ce qu'elle soit inclusive, et aussi le Sénégal fait la médiation depuis l'arrivée au pouvoir du président Diomaye Faye. Le Sénégal voulait rapprocher les pays du Sahel Al-Sahar, surtout le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qui ont été derrière l'initiative de la création de l'Alliance des États du Sahel, les rapprocher de la CEDEAO et faire en sorte qu'ils puissent réintégrer, mais autrement, la CEDEAO. Donc c'est en cela que ce panafricanisme et le panafricanisme de développement, il est basé sur la solidarité, sur le renforcement de la coopération, comme ce que fait le Sénégal actuellement. Donc c'est de nature, c'est-à-dire à rapprocher d'abord les pays de l'Afrique, de l'AES, des pays de la CEDEAO, et c'est de nature aussi à rapprocher les pays africains pour qu'ils puissent faire émerger une vision à même de leur permettre de relever ces innombrables défis. Au premier ordre desquels, il y a le chômage des jeunes. Il faut le rappeler, 11 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail africain annuellement. Il y a des problèmes liés au terrorisme, le terrorisme qui crée une espèce d'instabilité chronique et multidimensionnelle qui nécessite un nouveau traitement. Donc, qui nécessite une nouvelle approche. Et c'est là où on voit que la diplomatie sénégalaise, la diplomatie marocaine, peut-être on va en parler, elles sont très actives sur cet aspect-là parce qu'elles partent de principes qu'il faut absolument réinventer, rénover, refonder l'approche de gestion de la problématique sécuritaire. Donc il y a une focalisation sur la problématique sécuritaire et le fait que pour résoudre la problématique sécuritaire, il faut investir dans une espèce d'intelligence collective basée sur la coopération, l'intensification de la coopération et la réforme des institutions africaines aussi bien sous-régionales que continentales qui opèrent dans le domaine de la gestion de la problématique sécuritaire.
Et toujours dans cette même orientation, vous avez parlé tout de suite donc de cette démarche sécuritaire. Donc la diplomatie sénégalaise également actuelle peut-elle jouer selon vous un rôle de médiateur entre les blocs politiques divergents au sein de l'Union africaine ?
Je pense que le Sénégal, comme je viens de le dire, il est en train de mettre en place une nouvelle diplomatie. Cette nouvelle diplomatie n'est pas une diplomatie idéologique, il faut le dire. N'est pas dans un progressisme béant, ainsi de suite. C'est une diplomatie pragmatique qui consiste à trouver les voies et les moyens pour que les pays africains puissent collaborer ensemble, trouver les voies et les moyens pour que les pays africains puissent élaborer une approche collective de gestion, j'ai envie de dire, des problématiques sécuritaires et au-delà d'une valorisation des ressources énergétiques, des minerais stratégiques et j'en passe. Donc on voit aussi au sein de l'Union africaine, il y a aussi, comme venu de dire, il y a une divergence, il y a des blocs d'abord, ça nous réfère rapidement à ce clivage entre les pays d'Afrique, les pays d'Alliance des États du Sahel et les pays de la CEDEAO. Donc ce clivage-là, il est manifeste, il se laisse entendre, il se laisse voir au niveau du fonctionnement de l'Union africaine à partir du moment où il y a eu la suspension de certains pays, ainsi de suite. Le Sénégal appelle, surtout d'abord au niveau de la CEDEAO, à ce qu'il faut garder, et le Maroc, il est dans la même approche, à la nécessité de garder un dialogue avec ces pays. Parce que pour le Sénégal, le fait de continuer à marginaliser ces pays, les suspendre des instances continentales et régionales, ça peut exacerber les tensions et ça peut donner lieu à des configurations géopolitiques qui peuvent être déstabilisatrices pour les pays du continent. Donc on voit qu'aussi la détermination de la diplomatie sénégalaise a joué ce rôle de médiation. c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse trouver des solutions africaines à certains conflits qui émergent entre les États en Afrique. Donc on voit, si on extrapole ça sur le fonctionnement de l'Union africaine, c'est-à-dire que la diplomatie sénégalaise est beaucoup plus disponible pour travailler afin d'éviter les clivages. Éviter les clivages parfois stériles, les clivages liés par rapport d'abord à des différences en matière de modèle de gouvernance, je viens de me parler, et des clivages parfois stériles parce qu'ils sont basés sur des considérations parfois surannées, considérations idéologiques. Et je viens de vous dire que pour la diplomatie sénégalaise, le panafricanisme auquel elle appelle, c'est un panafricanisme basé sur le pragmatisme et la résolution des problèmes de continent.
Vous venez de parler du Maroc, on va y venir. Mais d'abord, aujourd'hui, vous venez de parler de panafricanisme. Justement, comment également aujourd'hui la vision panafricaine du président Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko permet-elle de bâtir un consensus entre États progressistes et États, notamment aussi sur les questions de souveraineté, de monnaie et de sécurité?
Je vois que pour l'instant, par rapport à la diplomatie sénégalaise, d'abord, il y a une considération importante donnée au panafricanisme. Mais comme je viens de le dire, ce n'est pas un panafricanisme révolu, ce n'est pas un panafricanisme suranné, c'est un panafricanisme, comme le disait l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, un panafricanisme rénové, en quelque sorte. Mmh. Rénover le panafricanisme, comme je viens de vous dire, c'est de trouver les voies et les moyens pour que les pays africains puissent résoudre leurs problèmes en réformant les institutions continentales, en investissant dans ce que j'appelais au début l'économie de mutualisation. Donc, en la matière, le Sénégal, il joue le rôle de médiateur et il peut jouer un rôle important en tant que trait d'union parce qu'il a un modèle de gouvernance, certes, différent des autres pays. Donc, c'est important. Le Sénégal se base sur une légitimité aussi. Et donc, tout ça, c'est important. C'est en plus de son histoire. Et en plus aussi de la solidité de son modèle démocratique et par rapport aussi à la capacité, c'est-à-dire au point fort par rapport à son modèle économique, le Sénégal est bien placé pour jouer un rôle important dans le renforcement de ce panafricanisme que j'appelle le panafricanisme de développement. Donc le Sénégal, il y a peut-être une convergence entre plusieurs pays africains maintenant quant à l'importance d'imaginer, de réimaginer, j'ai envie de dire, l'intégration continentale. Je crois que le Sénégal est dans cette perspective parce que le renforcement des relations entre le Sénégal et la Mauritanie en est une illustration parfaite, parce que les deux pays sont sur une économie de mutualisation et c'est nouveau par rapport à la manière dont les pays africains perçoivent leurs frontières, par rapport à la manière dont les pays africains perçoivent la gestion de leurs ressources et les procédés, dispositifs de gouvernance pour tirer meilleur profit de ces ressources. Mmh. Donc je crois que quand on se réfère au panafricanisme tel qu'il est vu par le président Diomaye Faye et Sonko, il est basé sur la souveraineté. Donc je crois qu'au niveau international, il y a un regain d'intérêt pour la souveraineté. Mmh. Et c'est encore beaucoup plus important, le fait de recouvrir la souveraineté continentale, c'est beaucoup plus important. Ce n'est pas pour être contre une quelconque puissance, une souveraineté pour que les pays africains puissent maîtriser d'abord leur destin. Maîtriser leur destin en essayant d'imaginer des solutions importantes pour gérer les problématiques sécuritaires, parce que, comme je viens de le dire, l'insécurité empêche le développement, parce qu'elle laisse les pays africains dans une situation où la majeure partie des efforts est consacrée à la gestion des urgences, alors que ce dont les pays africains ont besoin, c'est de développement. Donc je crois que il faut dire, ce regard d'intérêt par la souveraineté, cet angle. En même temps, la souveraineté par rapport à la manière dont les pays africains gèrent leurs ressources énergétiques. On sait que les pays africains ont raté leur rendez-vous avec l'industrialisation parce qu'ils n'ont pas su mettre de meilleurs modèles de gouvernance et des mécanismes de partenariat pour tirer meilleur profit des ressources énergétiques. Et maintenant qu'il y a un shift vers les minerais stratégiques, étant donné la transition énergétique, je crois que ce regain d'intérêt pour la souveraineté, ce panafricanisme de développement, tombe à point nommé, j'ai envie de dire, pour que les pays africains peut-être puissent se doter d'une vision afin de tirer meilleur profit de ce nouveau contexte international, de cette nouvelle économie mondiale.
Et justement, Et justement, par rapport à cette nouvelle économie mondiale, entre la diplomatie sénégalaise et la diplomatie marocaine, notamment sous le leadership du roi Mohamed VI, les contours sont les mêmes pour une Afrique unie, redéfinie sur le plan politique, géopolitique et aussi économique. Et pour également en savoir plus, nous allons d'abord, avec la complicité de la régie, écouter cet élément avant de revenir avec notre invité Mohamed Chkoundi.
Dans une Afrique en perpétuelle recomposition, où les équilibres traditionnels vacillent sous le poids de nouvelles ambitions, deux États tracent leur voie avec singularité et constance, le Sénégal et le Maroc. D'un côté, Dakar, fort d'une diplomatie d'influence fondée sur le multilatéralisme, la médiation et une stabilité politique enviée. De l'autre, Rabat, dont la stratégie d'ancrage continental repose sur une offensive économique, une présence culturelle affirmée et une politique de soft power à grande échelle. Deux trajectoires, deux styles, mais un même cap, bâtir une Afrique forte, souveraine et solidaire. Dans cette ère de rupture et d'opportunité, le Maroc et le Sénégal ne se contentent plus d'observer le jeu géopolitique africain, ils en redessinent les règles. Ainsi, ils esquissent ensemble les contours d'une diplomatie africaine décomplexée, enracinée dans ses réalités, mais résolument tournée vers l'avenir.
De retour, nous parlions tout de suite de la diplomatie sénégalaise, mais aussi marocaine, sous le leadership du roi Mohamed VI. Justement, comment la diplomatie marocaine concilie-t-elle ses intérêts nationaux, notamment sur la question du Sahara, avec son discours en faveur de l'unité et de l'intégration africaine ?
Mais tout d'abord, il faut dire que le Maroc, de part la vision qui a été mise en place pendant les 25 dernières années, et a su développer une expérience multidimensionnelle, multisectorielle, donc dans plusieurs domaines. Cette expérience, elle l'a mise et continue à la mettre au service de cette dynamique continentale que nous décrivions tantôt. Et donc le Maroc joue un rôle très important en Afrique, de par son rôle dans les EDE intra-africains, de par aussi sa place dans les échanges commerciaux entre les pays africains, et de par aussi, donc il y a, donc quand on analyse les relations entre le Maroc et les pays du continent, on voit qu'il y a une focalisation aussi sur une coopération par rapport à tout ce qui est développement humain, tout ce qui est lutte contre la pauvreté, tout ce qui est échange d'expertise concernant tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est infrastructure et tout ce qui est aussi lutte contre le terrorisme, tout en faisant preuve d'une imagination en matière d'approche de gestion de l'aspect sécuritaire. Donc en même temps, donc le Maroc, grâce à cette approche, le Maroc, grâce à cette accumulation qui s'est faite sur plusieurs étapes, le Maroc a su, on le dit, on a écrit un ouvrage là-dessus, dans lequel, parce qu'on a fait beaucoup d'études de terrain, ces études de terrain nous ont permis d'en arriver à la conclusion que le Maroc a su, pendant les 25 dernières années, élaborer, développer un modèle de coopération afro-africain. Ce modèle de coopération afro-africain, il est pragmatique. Ce modèle de coopération afro-africain, il vient en complément des autres modalités de coopération entre l'Afrique et les autres puissances. Donc c'est important parce que les autres puissances sont dans une dynamique de quête, j'ai envie de dire, de compétitivité. Et le Maroc joue un rôle aussi de plateforme par rapport à cette quête de compétitivité. Donc ce modèle de coopération afro-africaine qui verse dans le panafricanisme de développement, de par son impact sur d'abord le changement de perception sur la dynamique sur les pays du continent, et de par son impact aussi réel par rapport à l'amélioration des conditions de vie des habitants, par rapport à sa contribution fut-elle modeste concernant tout ce qui est lutte contre le terrorisme, il ne cesse de convaincre plusieurs pays, y compris les pays d'Afrique anglophone, qui à leur tour se convertissent au pragmatisme et abandonnent certains pays un peu, et abandonnent une logique peut-être classique, dépassée, idéologique, basée sur des considérations idéologiques. Donc on voit un peu l'engouement autour de ce modèle et on voit aussi les acquis engrangés par le Maroc par rapport à son dossier lié à l'intégrité territoriale. Donc le pragmatisme marocain finit par payer en jouant un rôle important dans le renforcement du panafricanisme de développement, un panafricanisme réel et en même temps pour faire avancer la cause nationale du Maroc. Donc, ça aussi me permet de revenir sur l'idée de tout à l'heure, le Maroc aussi c'est parmi les pionniers de ce nouveau paradigme que nous appelons l'économie de mutualisation. Donc, je peux en donner, on a avancé comme preuve, les deux initiatives prises par le Maroc. Il y a eu plusieurs initiatives. Les initiatives visant à réinventer l'intégration continentale par le biais de réseautage entre c'est-à-dire les secteurs bancaires africains, le réseautage entre les placements financiers. Vous avez vu, pendant le week-end dernier, il était question de parler à Marrakech des difficultés qu'a l'Afrique d'accéder au financement. Donc ce réseautage, le fait de travailler ensemble, de promouvoir l'économie de mutualisation, c'est de nature à permettre aux pays africains de renforcer leur croissance économique et partant générer de plus en plus de recettes fiscales peut-être pour réduire cette dépendance structurelle vis-à-vis des sources de financement externes. Parmi les initiatives, je peux citer rapidement l'initiative le processus des pays africains arrivant de l'Atlantique. Derrière, il y a une intelligence collective et une nouvelle manière, une nouvelle approche de concevoir la coopération continentale, parce que plusieurs pays qui partagent des frontières, qui partagent la façade maritime, partagent aussi des problèmes liés à l'insécurité et des problèmes liés à la non-transformation des ressources, en plus des problématiques liées à l'accès à l'énergie.
Et très rapidement aussi, en quoi aussi le retour déjà du Royaume du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017, on se rappelle, a-t-il redéfini son rôle diplomatique dans la construction d'une Afrique plus solidaire et plus intégrée ?
Ouais, je crois que le Maroc, quand il a retrouvé sa place légitime au sein de l'Union africaine, il est, comme je le disais à l'instant, il est revenu, il a regagné l'Union africaine avec un modèle, avec une approche de coopération. Parce que déjà, le Maroc, quand il avait quitté l'Organisation de l'Unité africaine pour l'erreur monumentale qu'il avait commise, en reconnaissant un État qui n'a de l'État que le nom, le Maroc n'a cessé d'investir dans la coopération bilatérale. Cette coopération bilatérale s'est matérialisée dans plusieurs aspects. Donc le Maroc, quand il arrive à l'Union africaine, quand il retrouve sa place à l'Union africaine, il vient avec un modèle, il vient en tant que pays qui a un ensemble d'opérateurs économiques, privés et publics, qui connaissent davantage l'Afrique, qui est le business model des pays africains en quelque sorte. Donc le Maroc, il arrive avec une expérience. Cette expérience, depuis qu'il a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine, n'a cessé de l'injecter dans la dynamique continentale. Donc le Maroc joue un rôle très important dans l'implémentation des éléments de l'agenda, des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine.
Très rapidement aussi, dernière question, parce que nous avons écoulé le temps tellement, cet entretien est si fascinant pour parler de diplomatie marocaine et sénégalaise, toujours dans le cadre de la destination africaine. Selon vous, aujourd'hui déjà, le Maroc parvient-il, très rapidement, M. Skoundi, à instaurer une diplomatie d'influence et bénéfique pour l'ensemble du continent, toujours grâce à ce leadership du roi Mohamed VI?
Oui, je crois, de par le modèle que le Maroc a su forger pendant les 25 dernières années, de par sa présence de plus en plus importante au sein de l'Union africaine, de par son rôle dans la prise des initiatives de portée continentale qui le font parler de nouveaux paradigmes, de ce nouveau paradigme d'intégration, de cette économie de mutualisation, de par ses relations avec les puissances classiques, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, aussi la Chine, son ouverture sur plusieurs pays. Le Maroc joue le rôle de plateforme. Et donc, en même temps, on voit que le Maroc organise un ensemble de forums pour plaider les causes africaines, mais aussi pour faire connaître les problématiques africaines. Donc son rôle d'abord au niveau continental, sa place stratégique au niveau de la coopération internationale lui font jouer un rôle bien évidemment important dans cette diplomatie d'influence pour faire en sorte que les problématiques africaines soit, c'est-à-dire priorisé dans les agendas des institutions internationales et pour que l'Afrique aussi puisse avoir une place beaucoup plus importante dans cette gouvernance mondiale en gestation.
Pour une Afrique unie, une Afrique orientée vers le développement, comme l'a toujours voulu ce pays et ce continent, donc en parlant du pays comme le Maroc, le Sénégal entre autres. Merci encore à vous, M. Mohamed Eshkoundi. Je rappelle que donc, vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique. Avec vous, nous avons aujourd'hui découvert l'environnement de la diplomatie africaine à travers l'exemple du Maroc et du Sénégal.
Merci.
Merci également à vous, chers amis, pour cette aventure dans la durabilité de cette destination africaine. Rendez-vous pris dans un long voyage vers une autre destination. Au plaisir.